va démarrer. Bonjour tout le monde. Comme d'habitude, les cafés sont enregistrés, ce qui nous permet derrière de pouvoir revenir et entendre les choses. Donc, je vais lancer l'enregistrement. Alors.
Recording in progress.
C'est parti, vous avez la belle annonce officielle. Donc, merci d'être avec nous ce matin pour un échange avec Bruno Labordette. Il fait plaisir d'accepter de se joindre à nous. Aujourd'hui, on avait envie d'aborder des questions de médiation numérique, dont on parle beaucoup dans le réseau, mais entre autres avec le groupe médiation numérique, le groupe de travail, qui je donnerai la parole aussi pour préciser son fonctionnement. Et ceux qui ne le connaissent pas encore peuvent toujours le rejoindre. Donc, ces questions de médiation sont assez vastes, hein, un partage autour d'expérimentation des outils, différents publics, dans le cadre de projets, des projets adoptés, dans des formats hybrides purement numériques. Et une des questions qui revient beaucoup depuis toujours, c'est la question du rapport à la jeunesse. La question numérique, d'ailleurs, quand elle a été abordée par le théâtre très vite, et notamment en communication, c'était un petit peu la manière, enfin, on agitait la jeunesse comme un public possible à aller toucher grâce au numérique, avec une grande méconnaissance des usages du numérique et des usages de la jeunesse, par ailleurs. Mais en tout cas, ça a été souvent un discours de fond qu'on entend un petit peu moins aujourd'hui, qui revient de temps en temps. Mais en tout cas, ce n'est pas aussi simple que ça. Et puis, ça questionne aussi la transformation numérique des enjeux relationnels, en fait, des enjeux de positionnement entre institutions, territoires, institutions publiques. Ça tombe aussi que tout ça pose vraiment cette question de la vision d'institution, la relation d'institution. Ça fait partie de moi ce que vous évoquez dans vos travaux, ce qu'on a pu lire sur votre site et dans votre publication. Là, justement, c'était d'une part avec le travail que vous faites. J'avais aussi pu travailler à la MP2A et je suis votre travail depuis longtemps, donc j'ai l'occasion de présenter un peu ce que vous faites à l'ensemble du groupe, mais aussi à travers votre collaboration avec l'Observatoire des politiques culturelles avec qui on est proche au TMM Lab. Vous avez proposé l'année dernière une première édition d'une formation culture numérique et jeunesse que vous reproposez cette année et que je trouvais assez intéressante la manière dont vous présentez. Et notamment ces phrases qui sont lancées en ce moment pour parler de cette formation, qui viennent interroger nos postures et nos préconçus pour essayer de déplacer. Et voilà, donc j'avais envie de vous occuper pour pouvoir effleurer ce sujet avec pendant une heure de café. L'idée, c'est que bon, on aura un tout petit peu moins d'une heure, étant qu'il est déjà 10, mais c'est fini autour de 10 heures. Je vais passer la parole juste avant de démarrer à, par exemple, Claire ou Marion, juste pour que vous nous récitiez, pour les gens qui sont là, le groupe Médiation Numérique et son fonctionnement, de juste être besoin.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, le groupe Médiation Numérique, il s'est créé il y a, Marion va me corriger si je me trompe, mais il y a à peu près un an, voire même un petit peu plus, suite à un café, juste à un café TMN Lab avec un groupe de professionnels qui s'intéressaient justement à ces questions de médiation du spectacle vivant via le numérique. Très vite, s'est fait le constat qu'on n'avait pas vraiment d'endroit qui permettait de recenser les initiatives, notamment dans le spectacle vivant, qu'on en trouvait beaucoup plus sur d'autres esthétiques artistiques et qu'on trouvait beaucoup de choses autour de la com, mais très peu autour de la médiation via le numérique. Donc on a eu cette idée un peu fondatrice pour le groupe de créer un portrice qui permettait de rassembler et de catégoriser un petit peu à la fois des initiatives existantes, mais aussi des choses qui nous manquent et aussi les outils qui nous permettent d'y accéder, etc. Mais au-delà de ça, c'est aussi un groupe qui se réunit régulièrement. Alors, on a un petit groupe de travail avec... on est plusieurs personnes, donc on n'a pas avec nous aujourd'hui aussi Nathalie Dalmasso qui est du théâtre Massalia, et puis Olivier, je l'ai pas vu, peut-être qu'il est déconnecté, salut Olivier, qui est du théâtre de Choisy-le-Roi, et on essaye d'avancer, et on a aussi des instants où on se retrouve soit dans un café TMN Lab, soit à d'autres instants où on est sur le café médiation numérique. Et donc là, les prochains, si je ne me trompe pas, on en a le 13 avril.
Le 13 13 avril, oui.
Ça va. Et un autre au mois de mai. Et vas-y, tu voulais compléter, Marion.
Ouais, super, merci. Oui, donc dans le groupe, il y a Olivier, tu disais, il y a Nathalie, donc toi et moi. Et juste pour préciser, Olivier vient de mettre dans le chat le lien sur la page, en fait, qui est sur le site du TMN Lab, donc sur la page du groupe, sur lequel, du coup, vous trouverez le principe que Claire vient de vous exposer et aussi le lien, du coup, vers le Pearl Trees. Voilà. Et donc, si vous voulez venir pour le prochain café, effectivement, ça sera le 13 avril. Voilà.
Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, je vais passer la parole à Benoît. Benoît, l'idée, c'est qu'on commence sur un peu votre parcours. On prenne ce qui vous amène aujourd'hui à échanger avec nous autour du sujet qui nous rassemble. Et puis, avec l'angle particulier de cette question de la genèse, des usages, des pratiques, on filera vers ce qui a amené à concevoir ce programme de formation. Je vous laisse la parole.
Eh bien, merci Anne. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que nous allons avoir un échange intéressant, j'en suis certain. Juste en préambule, c'est vrai que ces moments d'échange sans enjeu de productivité, mais d'échange de fond, qui sont un peu, comme vous disiez Anne, on formalise un peu l'informel. Ça me semble très important et du coup, je suis ravi d'y participer. Et ce sont aussi des choses que je suscite, que je propose. Et d'ailleurs, dans le prochain numéro de la revue de l'Observatoire des politiques culturelles, là, qui paraît fin mars, il y a un des articles, c'est sur la jeunesse, hein, sur la question de comment on s'adresse à la jeunesse. Et j'ai écrit un article qui, dans le titre, est... changer de posture, point d'interrogation, et qui se termine par justement qu'est-ce qu'on peut faire. Je dis il faut faire ça, ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire se prendre des temps où on échange, en fait, libérer des enjeux, en fait. Alors pour rapidement faire une intro pour donner un peu les bases de la discussion, comme ça voilà, on aura des choses du matériau à travailler ensemble. Juste que je me présente moi rapidement, d'où je parle, en fait. Je pense que c'est assez important d'où on parle, parce que notre parole, elle est quand même très empreinte de la position, hein, qu'on occupe dans l'espace social. Et moi, j'ai choisi et j'ai continué à faire ce choix d'occuper plusieurs positions à la fois, en fait, dans l'espace social. C'est-à-dire que je suis artiste, c'est, on va dire, mon activité première. C'est de la production audiovisuelle que je fais, mais enfin, qui est plutôt muséale qu'audiovisuelle. Et puis, j'ai toujours œuvré dans le champ du spectacle vivant aussi. Donc, j'ai une production artistique pluridisciplinaire. Donc, voilà, ça, c'est on va dire mon activité de base, mais que j'ai choisi il y a longtemps de faire d'une part de façon pluridisciplinaire et d'autre part en toute liberté, et notamment de liberté par rapport à la question de la commande, c'est-à-dire que souvent quand on me propose des résidences ou des choses, il m'arrive assez régulièrement de refuser parce que je me sens pas assez libre de mes mouvements, où je trouve que les injonctions peuvent être trop fortes. Donc, c'est pas du tout pour critiquer, mais c'est juste pour vous expliquer qu'à mon endroit, la question de la liberté de regard, en fait, sur ma pratique, elle est assez cruciale, en fait. Et donc, par ailleurs, je mets en place des événements culturels. J'avais fondé il y a fort longtemps déjà, en 2005, rappelez-vous, 2005, il y a 18 ans, avec le Forum des Images, le festival Pocket Film, qui était un festival donc consacré à des films tournés avec téléphone portable, mais la caméra, elle était apparue dans les téléphones portables en décembre 2004, en fait. Donc, on a créé un événement culturel pour accompagner le développement d'une technologie qui aujourd'hui, la caméra dans les téléphones portables, elle est partout, elle a changé énormément de choses en termes sociologiques, psychologiques, et puis aussi par rapport aux projets culturels, et puis le Covid avec les confinements et autres choses ignobles qu'on a subies, du coup, nous a fait encore plus employer ces outils-là. Et du coup, comme toute situation violente subie par les êtres humains, eh bien du coup on peut en tirer des choses. Et ce qu'on est en train de faire, c'est un beau résultat de cette situation qu'on a vécue. Et du coup, simplement ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que à l'époque, il y a eu bien sûr pas mal de rejets, de jugements sur comment ça, des films tournés avec téléphone portable, c'est n'importe quoi, le cinéma c'est pas ça, enfin. Et moi, en fait, justement, ma posture, et c'est là où je parle de liberté, elle était de dire, mais il n'y a pas à juger, en fait. Simplement, rendons-nous compte que dans 10 ans, vous voyez, en 2005, dans 10 ans, en 2015, tout le monde aura une caméra en permanence dans la poche, ce sera le cas. Donc du coup, ça devient un fait social. Oh oui, mais un téléphone, ça sert à téléphoner, on ne fait rien d'autre que ça avec. Bah, je sais pas, on verra. Et du coup, je crois que cette question de l'ouverture à ce qui va se produire et de comment on est bousculé, on est transformé, ça me semblait assez important en fait à faire. En même temps que il y a la technologie qui se développait avec des enjeux purement commerciaux, des enjeux ignobles hein, d'argent pur et dur. Et d'ailleurs, on était partenaire avec SFR, donc c'était terrible hein, la posture dans laquelle on était. Mais ça devient un fait social, et quels usages on peut produire à partir de ça? Comment, à partir de ce projet qui n'a rien de louable, en fait, hein, mais qui devient un fait, hein, qui s'impose à nous, qu'est-ce qu'on en fait? Donc voilà, donc cette posture-là, là je vous parle du Festival Pocket Film, mais j'ai créé bien d'autres événements culturels, c'est toujours un petit peu ma posture. Je travaille avec les drones, avec la réalité virtuelle. Là, bon, bah, il y a les intelligences artificielles, on en parle beaucoup, je travaille beaucoup avec ça. Je travaille beaucoup aussi avec TikTok, qui est pour moi vraiment le réseau social majeur, mais vraiment majeur d'aujourd'hui dans ses usages, c'est-à-dire dans la quantité d'usages. Et ce qui s'y passe est extrêmement singulier, ça ne ressemble à aucun autre réseau social. Enfin, c'est absolument passionnant. Et c'est justement, il n'y a pas à dire c'est bien ou c'est pas bien, ça existe. Donc, est-ce qu'on s'est choisi de faire quelque chose avec, ou au moins de s'y intéresser et de voir à quels endroits ça nous questionne, ou est-ce que on traite ça comme quelque chose de mal sans même avoir cherché à le connaître. Donc voilà. Et puis je suis beaucoup dans la transmission, dans la pédagogie, dans les échanges professionnels. Alors ce qu'on appelle la formation professionnelle, mais moi que je positionne plutôt comme des espaces d'échange que des espaces surplombants où moi je saurais mieux que les autres. Non, je crois pas ça. Je crois que, par contre, j'ai une curiosité et puis une compétence peut-être à organiser des espaces d'échange. Et c'est plutôt comme ça que je me positionne. Et puis, pour terminer, et j'aurais fini de me présenter, mais du coup, ça prépare bien le terrain pour la formation avec l'Observatoire des politiques culturelles. J'œuvre aussi pas mal depuis quelques années maintenant, enfin une petite dizaine d'années, sur l'accompagnement des politiques publiques, c'est-à-dire, par exemple, là je termine une séquence de 4 ans avec la direction des affaires culturelles d'une ville, les Lilas, où on a vraiment œuvré à expérimenter des choses, à faire des formations, à imaginer des nouvelles stratégies de médiation, etc., pour essayer de construire des choses sur la question numérique et jeunesse. Donc voilà, je peux travailler avec des collectivités ou des structures sur des accompagnements. Voilà, donc voilà ma pratique pluridisciplinaire. Et donc je parle en fait de plusieurs endroits à la fois, à vrai dire. Et c'est ce qui m'intéresse de faire. Donc voilà pour me présenter. Et puis l'appui dont vous parliez, Anne, cette formation culture, jeunesse et numérique, donc proposée par l'Observatoire des politiques culturelles. En fait, c'était une formation. Moi, ça fait fort longtemps que je travaille avec l'Observatoire des politiques culturelles sur des formations et aussi sur certains accompagnements. Il y avait une formation qui s'appelait les ateliers culture et jeunesse, qui durait 5 jours, à laquelle je contribuais, j'étais monsieur numérique, on va dire. ils ont choisi l'année dernière de faire évoluer cette formation, donc de la nommer culture, jeunesse et numérique, et puis de changer son format. C'est une formation qui a eu lieu l'année dernière, donc je peux en faire un bilan, et qui va avoir lieu cette année. Les inscriptions sont closes. Là, ça commence dans 15 jours, en fait, fin mars. Et c'est une formation qui est uniquement en visio, qui dure 3 jours, avec un jour par semaine, qui est sur 3 semaines, et avec des choses à faire avant le premier jour et entre chaque séance. Et pour moi, ça a été un choix volontaire et volontariste même de faire cette formation en visio. On aurait pu la faire en présentiel, comme on dit maintenant, mais moi j'ai choisi d'aller dans cette difficulté-là, on va dire. Et juste, je vous explique un petit peu, on a beaucoup travaillé hein, pour la concevoir. Je crois justement par rapport à ce que je disais tout à l'heure, que je regarde l'heure, donc dans moins de 5 minutes j'aurai terminé hein, pour qu'on ait le temps d'échanger, je vous rassure. Justement, dans les formations, quand on participe à des formations, bah, il y a les moments, on va dire, où il y a des formatrices et formateurs qui transmettent une bonne parole, alors de plus ou moins bien et de façon plus ou moins participative, très bien, mais il n'y a pas que ça, il y a tous les moments d'informel, en fait, où on se rencontre, où on échange, qui sont, à mon avis, tout aussi constructifs que les moments de transmission plus classiques. Ça fait complètement partie et c'est de l'informel. Et justement, quand on est en visioconférence, il est où cet informel? Il n'existe pas, en fait. Donc comment, c'était vraiment ma question initiale, comment faire pour, avec ce dispositif à distance qui permet des choses, et notamment qui permet le fait d'avoir 3 fois une journée sur 3 semaines et non pas 5 jours sur une semaine, ça permet de toucher des personnes qui n'auraient pas pu libérer 5 jours, même au niveau budgétaire, ça coûte moins cher, etc. Donc ça nous permet aussi des ouvertures. Et du coup, ma préoccupation, ça a été comment faire pour que, entre les personnes qui participent, il puisse y avoir des échanges suffisamment riches et vraiment constructifs dans le cadre de cette formation. Que ce ne soit pas juste moi qui déblatère des trucs, si vous voulez, pendant 3 jours, c'est bien. Je ne dis pas que c'est mal, hein, mais ça n'est absolument pas suffisant. Et donc, je vous en livre un peu les arcanes hein, du dispositif de médiation. Alors, déjà, pour moi, il y a un enjeu hyper important, c'est que on a cette espèce d'idée reçue. Dans le domaine de la culture, je ne dis pas que vous l'avez vous, mais moi je sais que je peux l'avoir hein, à la base, que un événement culturel, l'idéal, c'est s'il y a des gens en présence physique les uns avec les autres, et que ça, si on arrive à ça, c'est le top, et que finalement, on va utiliser le numérique et tout, mais le but, c'est in fine d'avoir cette incarnation, en fait, ce partage d'incarnation, et que tout le reste ne serait qu'un ersatz de la présence physique qui serait l'idéal. On le voit par exemple dans le discours des exploitants de salles qui disent ça, qui disent mais il n'y a rien de mieux qu'une projection en salle, il n'y a rien de mieux que voir un film en salle. Je suis évidemment en désaccord total avec cette idée. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas rien de mieux que voir un film en salle. C'est génial de voir un film en salle. Moi, j'ai travaillé, enfin, j'ai fait une recherche action en région Île-de-France sur 4 ans. Sur les adolescents et les salles de cinéma, avec plein d'exploitants. Je travaille tout le temps avec des salles de cinéma. Je suis pour hein, les salles de cinéma, soyons clairs. Mais je crois que l'expérience vécue dans une salle de cinéma, c'est une expérience de cinéma, mais ce n'est pas la seule. Et que voir un film, même regarder un film sur son téléphone, ça peut être une magnifique expérience. Enfin, pourquoi? C'est une autre expérience, en fait. Et du coup, par exemple, alors peut-être je vais en choquer certains, mais je suis un fervent défenseur du piratage. Je suis pour le piratage de l'audiovisuel parce que ça permet d'accéder à des contenus culturels. C'est-à-dire, si on se place du point de vue de la culture et non pas du commerce, c'est pas la même chose, hein, la culture et le commerce. Et il y a une sorte de confusion habilement, si vous voulez, fabriquée par, on va dire, les industriels de la culture pour nous faire croire que leur commerce, ce serait la culture. Mais non, la culture, c'est un fait anthropologique. Et c'est à ça qu'on se connecte, me semble-t-il, quand on est financé par le bien commun et non pas au commerce. Et du coup, voilà. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que dans les pratiques, et notamment les pratiques des jeunes avec les réseaux sociaux et les pratiques d'accès à la culture par les réseaux numériques et les pratiques d'inter-échange entre les personnes dans les réseaux numériques, ce qui s'y passe n'est pas un ersatz de ce qui se passe dans le réel. Il se passe des choses très importantes. On découvre des œuvres, on est en relation les uns avec les autres. Il y a même les sites de rencontres et même on trouve son âme sœur pour toute la vie, enfin grâce aux réseaux numériques. Enfin, pas moi, mais enfin il y a des gens qui font ça et c'est pas mal, c'est pareil, il n'y a pas à juger ce genre de choses. Et donc, pour relier à la formation, je me disais que ça pourrait être intéressant dans le dispositif lui-même de la formation professionnelle de voir, eh ben, en numérique, on n'est pas en présence physique, est-ce qu'il est possible, entre personnes qui a priori ne sont pas des utilisateurs fervents comme peuvent l'être la jeunesse de ça et qui ont plutôt un jugement négatif, ce qui est mon cas hein, au départ sur les échanges comme ça, est-ce que ça va nous permettre quelque chose, c'est-à-dire je mets en abîme dans le dispositif même de la formation un des sujets de la formation qui est du coup peut-être nous ouvrir à des projets, je vois qu'il est 8h30, donc je termine sur la formation. Ce qu'on a fait, c'est déjà de diviser chaque journée en 6 séquences d'une heure. Chaque séquence a une thématique extrêmement précise. Il y a 15 minutes de pause entre chaque heure. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un tunnel d'une journée. On sait, on peut se représenter, se préparer, vous voyez, psychosociologie du numérique, sociologie de la jeunesse, enfin, il y a différents thèmes, avec trois moments, c'est-à-dire qu'une journée plutôt sur des connaissances, la première journée, une deuxième journée sur les méthodes, et une troisième journée sur les projets et leur évaluation. Donc il y a vraiment trois thématiques, et dans chacune de ces trois journées, 6 séquences d'une heure, avec à chaque fois une énergie, un sujet complètement différent, donc on change de sujet à chaque fois, donc il y a une sorte de frustration parce que chaque sujet est très vaste. Et voilà comment ça se passe dans l'heure. Je démarre en faisant une présentation, on va dire, de 15-20 minutes, sur le sujet sur lequel moi j'ai travaillé. J'ai beaucoup d'exemples aussi, je montre des choses, j'utilise beaucoup la main, c'est-à-dire je vais vous montrer le petit dispositif que j'utilise. En fait, j'ai une caméra et du coup je peux écrire des trucs, je peux montrer des bouquins, vous voyez, je peux montrer des citations comme ça, enfin, donc en fait je fais un moment, voilà, où j'utilise un peu les outils pour qu'il y ait aussi un petit peu d'incarnation. Après ça, on fait un moment de brainstorming où je note en mind mapping de façon orale les contributions des unes et des uns et des autres, mais 5-10 minutes max. Et ensuite, j'ai mis en place un dispositif d'écriture collaborative, donc un back-office, une sorte de site web, en fait, si on peut dire, mais très simple d'emploi. J'emploie un outil libre qui s'appelle SPIP, que vous connaissez peut-être, qui est un outil pour faire des sites internet, qui est très utilisé en France. Il y a, je sais pas, la moitié des musées utilisent cet outil, des mairies, le CNRS, Éducation nationale, l'IBE, Télérama. Enfin, c'est un outil très employé en France, très simple d'emploi. Et en fait, on a la thématique que j'ai traitée et sur laquelle on a partagé. Et pendant 15 minutes, chacun, sur son ordi, en fait, écrit quelque chose. Donc, sur qu'est-ce qui retient. Qu'est-ce qu'il a retenu de ce qui a été dit, qu'est-ce qui lui semble important, hein. Deux, est-ce qu'il y a des questions, des désaccords. On a le droit de ne pas être d'accord, c'est quand même essentiel de ne pas être d'accord en démocratie. On a vécu une période où on n'avait pas le droit de ne pas être d'accord, mais en fait, on est en démocratie, on a le droit d'être d'accord, de ne pas être d'accord. Donc, une synthèse pour moi. Deux, remarques ou désaccords. Et trois, proposition de contribution, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens sur le sujet qui en fait s'y connaissent vachement plus que moi et qui ont des choses à apporter. Et vous voyez, dans l'oralité, on n'a pas le temps en fait. C'est pas. Et donc pendant 15 minutes, chacun écrit son truc. Et puis ensuite, on prend 5 minutes pour lire les contributions des uns et des autres. À 16 personnes, on avait 16 personnes l'année dernière, on va avoir 16 personnes cette année. Dès la première heure, c'était hyper impressionnant parce qu'il y avait une richesse, si vous voulez, de contributions et d'enrichissement mutuel qui était impressionnante. Vous faites ça 6 fois par jour pendant 3 jours. Et ce que ça a produit, je vais vous montrer ce que ça a produit. En fait, c'est tout simple. Attendez, je partage l'écran. Mais c'est impossible à lire. Donc, ce que ça a produit, c'est cet objet-là, en fait. Et du coup, chacune des thématiques dont je vous parlais, ben, on voit les contributions. Donc là, c'était sous forme de podcast des uns et des autres, vous voyez. Et puis, sur, je sais pas, les méthodes, par exemple, eh bien, on a voilà, les contributions de chacun. Voilà. Et donc, avec une image d'illustration aussi, bref. Donc, on a une ressource, si vous voulez, partagée. Et puis, comme vous l'avez compris... Pardon. C'est intéressant, c'est le téléphone ancien qui sonne. Donc je le coupe. On a une ressource partagée hyper riche, et comme vous l'avez compris, il y a des connaissances, des méthodes, des exemples de projets et des méthodes d'évaluation. Donc tout ça peut être très concret, hein, c'est pas juste. Voilà, je m'arrête là parce que je pense que vous avez compris.
Merci beaucoup, Benoît. Donc, l'idée, maintenant, ça va être aussi de pouvoir échanger. Si vous avez envie, peut-être si déjà là, il y a des questions, des remarques, des envies de creuser quelque chose que Benoît a dit. Moi, tout de suite, déjà, j'ai une question par rapport à ce que vous produisez dans le cadre de cette formation. Ça nous intéresse beaucoup, en fait, les questions de partage, de mouvement commun. Je suis très curieuse d'aller voir à l'intérieur. C'est quelque chose qui est plus dit sur le site ou qui est réservé
En fait, comme c'est une synthèse qui est quand même contextualisée à la formation, c'est pas quelque chose qu'on a rendu public. Mais je me questionne. Donc, je vais vous envoyer le lien. Et vu qu'on a ce partage, je veux dire, il n'y a pas de secret, hein, non plus là-dedans. Je vais vous envoyer le lien dans la discussion. Mais comme c'est contextualisé à la formation, il y a peut-être des choses qui peuvent, vous voyez, c'est pas éditorialisé pour d'autres personnes que les participants à la formation. Donc, je suis pas sûr qu'en tant qu'objet public, ça fonctionne tant que ça. Je vous ai envoyé le lien. Par contre, justement, ce qui circule sur les réseaux sociaux, là, pour préparer la prochaine formation, c'est des choses qui ont été partagées pendant cette formation. En fait, on en a sorti des choses qu'on partage.
D'accord, ok, je comprends. C'est aussi pour ça qu'il y a quelque chose de très incarné dans dans les résultats qui sont sortis. Et par rapport à... C'est intéressant, ce que j'observais aussi, c'est que donc la démarche de conception de la formation, c'est de toujours travailler sur la question de l'hybridité, en fait. C'est qu'en fait, la question de l'hybridité, c'est ce qu'on travaille au sein du TNNA, parce qu'il y a bien qu'on n'est pas dans un espace virtuel versus un espace réel, mais bien une prolongation de la vie. Donc, nos pratiques sont toutes complètement hybrides. Je trouve ça assez intéressant de voir le retour de la main dans cette visio. J'ai très envie de tester cet outil. On voyait d'ailleurs, on était au salon du NFT Paris la semaine dernière, on voyait qu'il y avait des startups qui proposaient d'imprimer les NFT. Donc, c'est quelque chose comme ça qui est toujours dans l'aller-retour du numérique et du présentiel, en fait, et de l'objet physique. C'est assez intéressant. En tout cas, que nous, on observe, quand on regarde du côté plutôt de la jeunesse, est-ce que c'est des choses aussi que vous observez cette question de l'aller-retour, ou est-ce qu'il y a quelque chose, un pas qui est passé plus fort du côté du numérique et de la dématérialisation, lorsque vous avez pu observer des pratiques et des besoins, en tout cas, voilà, côté, on sent bien que côté, on va dire, génération, je ne sais pas quelle génération on est, mais voilà, c'est quelque chose qui marche très bien de faire des allers-retours et de redonner, comme dans les tendances du web design, il y a une tendance du stéomorphisme. Et des tendances de web design qui reproduisaient une étagère quand il fallait mettre des livres audio. Donc, on voit qu'il y a toujours quelque chose comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vrai, avec des générations plus jeunes, il y a ce besoin-là, selon vous?
Moi, là-dessus, je crois que, comme vous dites très bien, il y a une hybridation. Pour moi, il y a plus de séparation entre un espace digital et puis un espace physique. Enfin, même, je veux dire, entre nous, on peut s'envoyer un SMS, puis ensuite se retrouver. Et tout ça nous semble absolument fluide. Il n'y a pas de. C'est des modalités différentes. On peut s'envoyer un mail, s'appeler. Enfin, et je crois que c'est exactement pareil. Donc. La question, enfin, dans l'analyse, on va dire sociologique, bah maintenant c'est fluide, je crois tout simplement. Et ensuite, la question, c'est plutôt comment nous on tient compte de ça dans nos pratiques et dans nos propositions culturelles, en fait, et pas pour les mimer, ni pour faire ce que les gens font déjà. Moi, ça c'est quelque chose sur lequel je suis assez clair. C'est-à-dire que parfois, on est un peu dans une fuite en avant, un peu démagogique. Ah, les jeunes sont là, alors on va leur proposer un truc là où ils sont. Mais non. Justement, ce qui va les intéresser, c'est qu'on leur propose autre chose, mais en conscience des pratiques. Mais proposer de faire, par exemple, des choses sur les réseaux sociaux qui sont employés par la jeunesse. Moi, je trouve pas ça forcément pertinent parce qu'ils y sont, c'est leur espace. C'est intéressant pour nous de comprendre ce qu'ils y vivent, etc. Et la façon de comprendre, bah, faut leur demander. Il faut pas lire Michel Desmurget, La fabrique du crétin digital, c'est plutôt lui qui est un crétin, à mon avis, de dire ce genre de choses. Il faut parler avec les gens à qui on s'intéresse. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui, c'est facile à dire, mais c'est pas si facile à faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça nous fait énormément bouger. Parce que nos a priori, en fait, ils explosent quand on parle vraiment avec les gens. Et du coup, c'est hyper intéressant, mais c'est potentiellement très déstabilisant. Mais voilà, donc du coup, pour moi, oui, il y a ce constat. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? Et je trouve que faire des projets un peu mimétiques, bon, c'est pas forcément passionnant. Et donc, je vais vous donner un exemple de moi d'usage que j'ai fait l'année dernière au Lila. On avait proposé à des gens de faire des films. Je travaille beaucoup sur la question de la mémoire des quartiers, la question du patrimoine numérique, qui pour moi est un enjeu très important. Où est-ce qu'on conserve ces données? Quelle valeur on donne à ces productions? Si on met ces vidéos sur YouTube, ces photos sur Google, etc., on est à mon avis complètement dans l'erreur. On sous-traite à des industriels qui n'ont rien à voir avec nos enjeux des choses. Il faut savoir où sont nos données. Est-ce qu'on a un travail de constitution d'un patrimoine numérique et comment on le met en œuvre? Pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. La question du récit, en fait, du récit du territoire, c'est l'histoire, c'est-à-dire c'est l'identité, donc c'est la culture, en fait, hein. Et là-dessus, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de chantiers à faire. Et donc, du coup, dans un quartier des Lilas, mémoire du quartier, c'était dans la rue, on proposait aux gens de faire des films, on leur prêtait des appareils photo. Bref, ils faisaient des films à partir de photos sur la mémoire du quartier. Les films, on les mettait en ligne au fur et à mesure sur une plateforme vidéo spécifique, pas sur une chaîne YouTube de la ville des Lilas, sur une plateforme vidéo où on sait où sont les données, on peut les récupérer pour les passer en salle, etc. Donc voilà. Et du coup, les gens, il y avait une restitution à la fin. Et le fait que les films soient diffusés sur la plateforme numérique a fait que les participants ont pu eux-mêmes partager avec d'autres personnes les vidéos qu'ils avaient faites et qu'ils étaient en train enfin, qui étaient en train d'être faites. Et du coup, cette capacité de partage a fait qu'il y a eu énormément de monde au moment de la restitution. Et du coup, l'espèce de croyance qui est de dire, ah, les gens, ils vont venir pour découvrir les films, faut pas qu'ils voient les films avant. Souvent, on dit ça. Mais c'est faux. On ne va pas au cinéma pour découvrir un film. C'est pas vrai. On va au cinéma pour vivre une expérience sociale dont peut-être la découverte d'un film peut faire partie, mais on adore aller au cinéma pour revoir un film qu'on aime. Par exemple, le Rocky Horror Picture Show à Paris depuis 1975, tous les vendredis soirs et samedis soirs. Moi, je l'ai vu plein de fois, ce film. J'adore, vous voyez, je vis une expérience sociale. Et du coup, justement, le fait d'utiliser le numérique pour partager, donc les gens, ils avaient fait un film, ils pouvaient le partager avec leur père, comme on dit. Eh bien, ça donnait d'autant plus envie de venir partager cette expérience, d'être ensemble pour voir ces films en grand, etc. Voilà un petit exemple, si vous voulez, tout simple, en fait, d'usage de cette hybridation. Mais simple à dire, mais à faire, faut le faire après. c'est du boulot. C'est pas facile.
Il y a une question de position de réussir, effectivement, à prendre un peu le recul pour pas être. La question du mimétisme, c'est une des manières d'expérimenter des choses un peu plus facilement. Mais en même temps, je partage avec cette question-là, comme dans le spectacle de on a beaucoup dit on est en retard sur les questions numériques, donc on va courir après pour refaire des choses. Or, moi, on ne considère pas au téléphone qu'on est en retard sur le numérique, on considère juste qu'on a d'autres pratiques. Donc, c'est plutôt des espaces pas inventés, mais ça demande du temps. Donc, du ressource humaine, en fait, déjà. On va penser des choses expérimentées et des modes de projet aussi un peu plus dans l'itération, qui ne sont pas forcément naturellement les manières dont on fait les choses. Je vais passer la parole à Claire, si vous avez une question.
Oui, j'avais une question. Enfin, déjà une remarque. C'est, je trouve que ça, enfin, ce que je disais avant qu'on commence véritablement, mais il y a pas mal de choses qui résonnent déjà sur, enfin, l'idée que effectivement, il faut qu'on s'empare du numérique pour que ça ne soit pas uniquement des grands sites commerciaux qui le fassent et que justement la culture y soit moins présente ou en tout cas, enfin, je sais pas comment le dire, peut-être moins riche ou enfin voilà, en tout cas qu'on puisse y apporter la diversité, ça j'en suis convaincue. Il y a des endroits où ça gratte un petit peu parce que je trouve que dans ce que vous abordez, oui, il y a des moments où on est un peu en tout cas moi personnellement en bataille constante de dire bah oui, effectivement on n'apporte pas de jugement et ça paraît une évidence. Et en même temps, on le fait sans cesse, parce qu'on est aussi dans un système où ne serait-ce que pour la programmation, c'est une personne qui est reconnue pour le faire. En tout cas, dans nos lieux de spectacle vivant, c'est toujours encore comme ça que ça fonctionne, et c'est aussi comme ça que c'est financé, institutionnalisé, etc. Donc, je crois qu'il y a beaucoup d'évolutions à faire avant d'arriver à ce qu'on entendait là. Et du coup, ma question était plutôt sur une chose que j'avais vue en regardant un petit peu votre travail, où dans l'idée de la formation, c'est l'idée que tout puisse se passer de façon numérique sur un sujet qui traite du numérique. Par contre, j'ai bien vu aussi qu'à plein d'endroits dans les projets que vous menez, genre, je ne sais pas si c'est dans le quartier des Lilas ou autre, mais que la présence, elle reste nécessaire pour faire médiation. Du coup, là, ce que j'entendais, c'est que dans vos projets numériques, finalement, on pourrait s'en passer. Mais moi, j'ai quand même cette impression que l'humain, à un moment donné, reste indispensable pour faire que ça prenne quelque part. Je me trompe ou...
Non, en fait, pour moi, par exemple, sur la formation de l'OPC, c'est un choix pour 3 jours de formation, c'est un choix de faire comme ça. C'est pas pour dire il faut faire toutes les formations en distanciel. Et moi, je fais beaucoup de formations en présentiel aussi. Donc, simplement, par rapport à ce que vous dites, Claire, moi, je pense que moi je suis pour la présence incarnée, mais on peut aussi faire des choses sans présence incarnée, on peut aussi faire des choses en complémentarité. Voilà, je ne mets pas d'opposition en fait. Je vous donne un autre exemple d'un projet que j'ai fait très récemment à Villejuif, où on a proposé, c'était aussi la mémoire d'un quartier en renouvellement urbain en fait, et on a proposé en amont à des gens de faire des photos eux-mêmes du quartier, et on a imprimé ces photos et ensuite on a proposé à des gens de découper tout ça et de faire des films à partir de papier découpé en fait. Et j'ai donné un outil que je vais vous montrer à base d'un QR code en fait, où les gens, en flashant le QR code, ils pouvaient eux-mêmes publier leurs photos. Et j'ai été très étonné de voir plein de photos qui ont été faites en amont. Donc du coup, les films ensuite ont été faits à partir des photos faites par les gens, vous voyez. Et du coup, en effet, là, la présence, elle était absolument indispensable, mais l'outil numérique en distance a permis de construire une présence encore plus incarnée, finalement, parce que on avait les images faites par les gens, en fait. C'était pas et puis par ailleurs, ce QR code, j'ai présenté le projet au conseil municipal il y a 15 jours, là, de Villejuif, c'est ce QR code, donc on l'a distribué aux gens, aux élus qui étaient au conseil municipal, et en plus le même QR code, donc vous voyez là, ce sont les photos qui ont été faites en amont par des gens, en fait, hein, et ils ont publié toutes ces photos en amont, et puis ensuite il y a eu l'atelier avec une documentation, si vous voulez, de l'atelier, de comment se passait l'atelier, où les photos, donc on voit ça, ça c'est le tournage des films avec la caméra, le papier découpé, on découpe, etc. Les photos, elles ont été faites aussi, la documentation de l'atelier, par les gens, par les participants qui ont publié les photos. Et en plus, il y a les films qui sont là, qui sont disponibles ici. Donc finalement, ce, ce QR code, cet outil de médiation numérique, il a permis, un, de constituer le patrimoine qui a permis de faire les films, deux, de documenter l'action, et trois, de diffuser les films, en fait, à partir juste d'un outil numérique, et c'est pas sur Google et autres, c'est dans mes serveurs, je les conserve. Donc voilà, du coup, j'ai pas une réponse tranchée à votre question, en fait. Mais je suis d'accord sur le fond. C'est génial d'être ensemble, j'adore.
Oui, merci, ça répond quand même sur le... C'est juste, en fait, qu'il faut être décomplexé par rapport à tout ça, quoi.
C'est ça, c'est un peu ça. Et puis, aussi oser, si vous voulez, moi, là-dessus, j'ai un discours assez clair. Le numérique, ce sont des outils. Alors, bien sûr, c'est un milieu d'existence, je dis beaucoup ça, mais ce sont des outils. Et les industriels veulent nous faire croire que c'est facile, c'est immédiat, faut que ce soit tout de suite immédiat. Mais non, c'est un travail. Si c'est immédiat, ça veut dire que on est l'objet. C'est pas nous qui choisissons notre méthode, c'est d'autres personnes qui le choisissent pour nous. Donc oui, ça va être immédiat. Et simplement, ça demande du travail, de l'attention, de la formation, du budget, du temps. Et c'est à ce prix-là qu'on va l'utiliser à bon escient, me semble-t-il. Et ça, comme on a beaucoup de confusion, je crois, entre les pratiques personnelles et les pratiques professionnelles, c'est pas la même chose. Je veux dire, nos pratiques personnelles avec le numérique, on fait ce qu'on veut. On peut être manipulé par les grands satans, etc. Ça va. Mais en tant que professionnel, dans les pratiques professionnelles, il faut bosser, quoi. Je veux dire, ce n'est pas la même chose. Et quand je vois, par exemple, justement, dans le domaine culturel, des gens qui font des photos, qui postent sur Facebook, etc., des photos qui peuvent être très bien, par exemple, pour documenter des actions, mais qui ne pensent même pas à... recopier ces photos dans leurs propres documents, sur leur disque dur. Donc dans 5 ans, dans 10 ans, quand on veut faire un bilan, etc., elles sont où les photos ? Ben, elles sont chez Facebook. Ben non, je veux dire, on est des professionnels. Donc si on fait des photos pour documenter les actions, on ne les met pas que sur les réseaux sociaux. Je ne dis pas qu'il faut... mais au moins, il faut ne pas oublier de se forger son propre patrimoine. Donc voilà, c'est du boulot, quoi. Et ça vaut le coup, vraiment.
Olivier. Oui, mais j'avais une petite question, qui du coup tisse un peu, enfin voilà, ça fait la suite un peu de ce que Claire disait, et puis du coup des exemples que vous donniez au Lila à Villejuif. Une question aussi du coup sur l'engagement des participants, parce que là à chaque fois effectivement on a des gens qui s'engagent, c'est-à-dire qu'on leur dit bah allez-y, faites des photos de votre quartier, etc. C'est des projets, enfin voilà, je pense que tous on en traverse. En l'occurrence, nous, à Choisy, on en a traversé un cette saison, justement, avec alors un artiste vidéaste. Alors, ça me pose la question du coup de la place que lui a eue, puisque c'est lui qui réalise les films. Donc, c'est un petit peu différent. Il y a peut-être cette chose-là. Mais effectivement, où du coup, on traitait la question du patrimoine gastronomique culinaire. Voilà. Et donc, l'idée, c'était en fait autour d'une recette. En gros, on demandait aux gens, voilà, partagez-nous votre recette, vous la faites en direct, et puis, enfin, tout ça c'est filmé, et puis c'est l'occasion surtout de discuter et en fait de parler de ses racines, de parler de soi, de parler de son quartier, de parler, etc. Et en fait, c'est un projet finalement très complexe. Très complexe en termes d'engagement, c'est-à-dire qu'effectivement, les gens, je pense, ont probablement pris peur de la caméra. Même si tout ça était fait avec beaucoup de bienveillance. Et du coup, en tout cas, c'est pas vraiment une question, mais c'est voilà, une remarque aussi sur cette question d'engagement. Et je me demande si dans les projets du coup des Lila et de Villejuif, ce qui peut-être change la donne, c'est aussi le fait que vous rendiez les gens acteurs, c'est-à-dire que ce sont eux qui prennent les photos, les vidéos. C'est juste, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qui diffère sans doute beaucoup là-dedans et...
Alors, je pense que c'est merci pour votre remarque, Olivier, et cet exemple. C'est la question de la participation. Voilà, si ce n'est de la coopération, c'est pour moi, enfin derrière ce que vous dites, c'est vraiment les droits culturels. En fait, c'est un sujet moi sur lequel je travaille beaucoup, sur lequel je fais aussi, j'anime des formations, des trucs. Enfin, c'est un sujet très important pour moi, la question des droits culturels, c'est-à-dire le respect du droit, notamment à l'expression et à la culture de chacun, et la place qu'on va donner à la culture de chacun, Et est-ce qu'on va ouvrir des espaces pour que les personnes se reconnaissent leur propre culture, la valeur de leur propre culture, de leur propre connaissance, etc. Et que se mette en place un échange, finalement un partage avec les artistes. C'est toute la nuance entre la démocratisation culturelle, d'accord, qui vient d'en haut, et puis la démocratie culturelle où on s'enrichit les uns les autres, qui n'est absolument pas déstabilisante pour les artistes, bien au contraire, mais simplement ils choisissent peut-être d'être entamés, d'être sincèrement transformés par les échanges qu'ils vont avoir aussi. Et du coup, sur cette question de l'engagement, il y a quand même quelque chose sur... enfin, il y a deux sujets pour moi. Il y a... on dit, bah voilà, les gens sont, ont de la peine à participer, voilà, sont pas très engagés, justement. Ou, et je pense que ça, par exemple, cet exemple à Villejuif, il y a eu deux jours. Le premier jour, il y avait un jeune homme qui était fan d'informatique, etc. Enfin bref, et qui était complètement en rupture scolaire, etc. Et en fait, il s'est passionné pour l'outil. Et c'est lui qui a fait la médiation, en fait, qui a géré l'ordinateur, etc. Et du coup, c'était génial. Et il avait prévu de revenir, je sais plus, la semaine suivante ou 15 jours plus tard. Il n'est pas revenu. Je savais que potentiellement, il ne reviendrait pas. Et il n'y a aucun jugement à porter là-dessus. Je ne connais pas sa vie, je ne connais pas ses contraintes. Enfin, je veux dire. Par contre, justement, et ça, le numérique peut nous aider. Le fait que... il soit reparti avec le QR code, qui j'ai bien vérifié que dans son téléphone, il avait bien en favori le lien vers l'endroit où on partageait des choses, et bien qu'il puisse revenir ou non, il peut justement, je ne sais pas s'il l'a fait ou non, je ne peux pas l'évaluer, mais en tout cas, il avait le moyen de se connecter à ce que d'autres avaient fait, quand bien même il n'ait pas pu revenir. Et moi, j'essaie dans les projets, justement, un, de donner vraiment une place expressive aux gens, c'est-à-dire que réaliser un film, par exemple, l'espèce d'injonction, il faut que ce soit un bon film. Moi, je fais des films aussi, donc je sais ce que c'est. Mais en termes de médiation, ça ne m'intéresse en aucun cas, moi, de réaliser des films avec des gens. Ça ne m'intéresse pas, je le fais moi-même, si vous voulez. Et là-dessus, il y a aussi une confusion sur laquelle il faut être au clair, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que je suis artiste réalisateur et je fais mes propres films ? Ou est-ce que je suis artiste avec mon background artistique et où je vais aller à la rencontre et je vais faire de la médiation. Ça n'a rien à voir, en fait. Et que du coup, tout mon parcours artistique, il va entrer dans le dialogue et il me semble que ce qui compte, justement, et c'est pour ça que les droits culturels sont un outil, c'est la place des gens. Ce n'est pas le fait de faire un film. Le film n'est qu'un outil, à mon avis, hein. Et du coup, c'est pour ça que je préfère, moi, donner la place aux personnes de faire et vraiment sur cette question de la participation, moi j'essaie de tenir compte dans les propositions du fait que oui, peut-être que les gens, ils ont peu de temps pour participer et comment moi, dans mon dispositif de médiation et avec le numérique, je vais faire en sorte que dans ce peu de temps, qui est le seul qu'ils puissent avoir en fait, et il n'y a pas de jugement à porter là-dessus, comment je vais essayer de faire en sorte qu'il se passe quelque chose qui soit le plus enrichissant possible pour tout le monde et qui puisse durer dans le temps pour tout le monde aussi. C'est vraiment ma préoccupation et encore une fois, je ne porte pas de jugement. Et j'ai fait énormément de choses à Choisy le Roi d'ailleurs, mais jusqu'à l'année dernière, dans le quartier des navigateurs, pendant des années, justement, on a fait, et pour vous dire un truc là-dessus, la première fois où j'étais intervenu en 2016 avec l'association Paris Concert à l'époque, c'était on va faire des films à des jeunes dans la cité. Mais les jeunes, ils s'en foutent complètement de faire des films, ils ont d'autres préoccupations, donc... ça n'a aucun sens même de proposer ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? C'est juste pour nous rassurer, nous. Vous voyez ce que... Et du coup, moi, je me suis dit, essayer de galérer à essayer de trouver des jeunes. Il faut trouver les jeunes, vous voyez. Moi, j'ai dit, non, parce que je vais faire un truc tout simple. J'amène un drone et je m'installe. Je fais voler le drone au milieu de la cité. Je peux vous assurer que 5 minutes après, il y avait 20 gamins qui étaient, c'est quoi, etc. Le drone, etc. Et qu'est-ce que je fais ? Je prends la télécommande du drone et je le mets dans les mains d'un gamin, si vous voulez, direct. Et du coup, il se retrouve avec un truc hyper impressionnant. Le drone, ça va très vite, etc. Ça se scratche contre les murs, etc. Il se retrouve fort d'une responsabilité. Et du coup, j'assume que oui, le drone, il va être cassé, il va être perdu sur un toit, etc. Mais on va le réparer ensemble. Et du coup, je vais choisir le drone qui n'est pas dangereux. Je vais choisir le drone qui est facile à réparer. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, mon enjeu, ce n'est pas de faire un film au drone sur le quartier, c'est de comment je peux donner les commandes et qu'est-ce qu'on va faire ensemble à partir de ça. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des petits films en plan séquence et ensuite on se mettait dans la salle de la maison des projets, on regardait ces films et on faisait en live une sonorisation des films. Et ensuite, hop, le QR code était envoyé. Et il y en avait, ils ont passé qu'une demi-heure sur l'atelier. Ils n'auraient pas pu consacrer plus de temps qu'une demi-heure dans leur vie. Mais moi, j'ai l'impression que j'ai fait mon boulot. Voilà. C'est vraiment mon approche, quoi.
Il y avait une question de Marion, mais tu as enlevé ta main, si peut-être tu as eu les réponses.
Oui, d'abord, effectivement, j'ai eu pas mal de réponses dans ce que Benoît vient de dire à l'instant. Puis après, je me demandais, parce que comme il est 10 heures, je ne sais pas si on prend encore... un peu le temps. Voilà. En tout cas, en deux minutes, je peux dire, en tout cas, moi, ça m'intéresse beaucoup. Je remercie beaucoup Benoît. Je trouve que, en tout cas, moi, je vous rejoins complètement sur ces aspects de questionnement là, sur les droits culturels, les projets participatifs, et puis sur la question de la place du numérique en tant qu'outil et en tant qu'enjeu, voilà, sans opposer le présentiel et le distanciel. Moi, vraiment, j'ai beaucoup aimé votre façon de présenter, et c'est des choses qui m'animent beaucoup. Moi, ce qui me questionne, en tout cas, c'est que j'entends aussi en creux dans ce que vous dites que il peut y avoir une espèce de tentation à considérer la créativité sur TikTok, l'espèce de sentiment qu'on peut avoir d'avoir une audience très très large sur les réseaux, si tant est qu'on arrive à bien utiliser les algorithmes. Et donc voilà, donc là en même temps, on a un enjeu de découvrabilité qui n'est pas que la médiation en tant que telle, mais qu'on essaye nous dans les lieux culturels de l'articuler avec des projets de médiation. Sans pour autant, c'est ce que Anne a dit un peu en introduction, sans pour autant pouvoir faire des projets comme ceux dont vous parlez, qui en réalité sont des projets exactement comme on en fait d'autres sans numérique, mais sauf que là, il y a aussi un critère numérique, mais ce n'est ni plus ni moins que des projets qu'on a d'en faire et qui sont hyper importants, de médiation, de territoire, etc. Et ça, en fait, c'est des projets qui sont très chronophages, qui sont coûteux, qui sont très... C'est un investissement important et on en fait déjà beaucoup dans nos lieux... les uns les autres. Et en fait, là où ça vient un peu frotter, c'est qu'on aimerait bien, enfin, en tout cas, on est plusieurs à réfléchir et à discuter sur comment est-ce qu'on peut quand même essayer de trouver des jeunes, je parle vraiment des plus jeunes, genre 15-20 ans, à essayer de trouver quand même des ponts et des liens avec des jeunes avec lesquels on n'est pas forcément engagé dans un projet où l'on court sur un territoire, pour leur proposer de créer des contenus ou de voir avec eux comment on peut co-créer des contenus, j'en sais rien, qui en tout cas aide une répercussion quoi sur leur réseau à eux, etc., et que ça nous aide nous un peu à rentrer en connexion avec les jeunes des territoires sur lesquels on est implanté. Et en fait, on rencontre vraiment beaucoup de difficultés avec ça. Ça, c'est une certitude. Et donc moi, j'entendais dans ce que vous disiez qu'en fait vous vous disiez même mais ça sert à rien d'essayer, en fait. Voilà, c'est ce que j'entends. On peut enfin d'essayer, en tout cas, précisément ce que je suis en train de dire là. Et nous, on est en train de se demander, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas, est-ce qu'on y va pas du tout? Et notamment sur TikTok. Du coup, là, on est un peu en fin de visio, c'est dommage, mais ça m'aurait bien intéressé. Vous nous parliez plus précisément de TikTok, parce qu'en plus, c'est vraiment, pour le coup, un des endroits là de créativité et de développement, et on est tous en train de se dire, qu'est-ce qu'on fait de ce gros machin-là, on y va, on y va pas comme on y va, et voilà, et en fait, bon bref, c'est tout ce que ça m'inspirait que j'avais envie de mettre en partage avec vous, voilà.
Merci beaucoup, j'ai quelques minutes devant moi, hein, j'ai un bon quart d'heure, hein, c'est pour ceux qui, voilà, pour vous répondre.
Juste pour, moi, donne-nous, on peut continuer encore un peu aussi, après moi j'ai juste à 10h30, j'enchaîne sur d'autres ateliers TMN Lab, donc on peut encore faire un quart d'heure sans problème.
Moi c'est pareil, 10h, ouais, ok, bah, on se fait un quart d'heure alors pour ceux qui, pour les...
Ça marche.
Pour vous répondre Marion, il y a plusieurs choses. Enfin, je vais vous parler un tout petit peu de TikTok et de comment je l'aborde, justement, parce que j'ai commencé par animer, mais il y a plusieurs années déjà, des ateliers à la FEMIS avec TikTok, parce que quand même, la FEMIS, école de cinéma, et vous le savez peut-être, mais le responsable des partenariats de TikTok France n'est autre qu'Éric Garandeau, qui était le président du Centre National du Cinéma avant, et qui m'avait demandé, mais en 2011, de créer ce qui s'appelle aujourd'hui la fête du court-métrage. Donc cet événement national, je l'avais fondé avec Isabelle Massot à la demande du Centre National du Cinéma à l'époque, et donc c'est assez significatif. Et alors, juste sur les deux points, sur TikTok, et puis sur la question de, en gros, qu'est-ce qu'on peut proposer aux jeunes, et comment faire du lien, en fait, comment aller, entre guillemets, les chercher, simplement pour... être dans nos missions, parce que dans nos missions, il y a aussi de leur proposer des choses qui soient enrichissantes pour eux. Moi, je pense qu'on ne peut pas forcer, enfin, ça, voilà, c'est vraiment des questions là de pédagogie et éducative, et c'est vrai qu'on est. Enfin, moi, je suis assez nourri de psychanalyse et notamment d'Alice Miller sur la question de la violence éducative, qui est un peu la règle, hein, dans l'éducation nationale, pour le dire très vite, quoi. On est vraiment dans des systèmes. C'est vraiment des systèmes à référent carcéral, etc. Hein, c'est ça, l'éducation nationale. Et du coup, dans les réseaux et dans les activités culturelles, bah, bien sûr que les jeunes, ils essaient d'avoir des espaces de liberté où ils ne sont pas forcés de faire des choses qu'ils n'ont pas choisi de faire. Vous voyez ce que je veux dire, quand bien même. Et ce n'est pas pour viser les enseignants, ils font ce qu'ils peuvent. Il y a des enseignants magnifiques, il y a des chefs d'établissement magnifiques. Hein, je dis pas. Parle d'un système d'organisation napoléonien de l'éducation. Et du coup, comment nous, parce qu'on peut être vu, je dis nous parce que je nous intègre dans le même paquet, parce que je peux être à cet endroit, on est vécu par les jeunes comme des annexes de l'école, hein, beaucoup, hein, et c'est-à-dire parce qu'on va les forcer à aller voir des spectacles, à aller au cinéma. Oui, ils sont forcés, il ne faut pas... Soyons clairs, c'est pas, encore une fois, ce n'est pas pour juger, mais soyons clairs dans l'écoute potentiellement de ce qu'ils vivent. Donc, y a eu une étude, hein, faite par 12 ans maintenant, par Thomas Legon, sur la réception du dispositif lycéen au cinéma en région Rhône-Alpes, et ce qu'on voit dans son étude, c'est une étude auprès des jeunes, c'est que ce dispositif ne sert à rien. C'est-à-dire que, et du coup, elle est mal vécue, cette étude, ils ne l'aiment pas trop au CNC. Pourquoi elle ne sert à rien ? Parce que y a ceux dont, en gros, les parents sont profs ou lisent Télérama, ils sont très contents d'aller voir ces salles de cinéma, mais ce n'est pas eux qui sont visés par les dispositifs, c'est précisément la démocratisation culturelle, les autres, qui, a priori, n'auraient pas accès à ces « bons films », entre guillemets. Et en fait, ils le vivent, ces situations, ils sont complètement coupés de la réception de ces films, parce qu'ils le vivent comme des choses qui sont obligées, comme des dispositifs dans lesquels ils ne reçoivent aucune écoute de leur propre goût, et du coup, ils bloquent. Et ils ont raison, me semble-t-il. Parce qu'on ne les écoute pas, on considère que c'est des incultes à qui on va apporter la bonne culture. Mais non, c'est pas ça, en fait, l'humanité, me semble-t-il. Et donc, du coup, c'est pour ça que cette raison, j'ai pris un peu de temps là-dessus, faut pas chercher à forcer les gens ou leur apporter des bonnes choses. Et c'est pour ça que je prenais cet exemple du drone. C'est plutôt... Qu'est-ce que je mets en partage ? Comment je viens écouter, je viens mettre quelque chose en partage et où il y ait une ouverture à la place de l'autre, en fait. Et comment, pour moi, vraiment, j'essaie tout le temps de repenser, de réimaginer des dispositifs de médiation. Comment je fais pour qu'il y ait la place de l'autre et que ce que je produis, ce n'est pas l'objet final, le film ou... Ce que je produis, c'est l'expérience vécue, partagée par les gens. Et en fait, avec ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, le UX, le UX design, vous connaissez ces notions-là, c'est vraiment précisément là-dessus que travaillent les industriels du web, sur l'expérience individuelle, en fait. Et je pense qu'on peut s'en inspirer. Et donc, je ne sais pas si je vous réponds vraiment, mais comment faire pour produire des dispositifs où on vient partager notre culture et où il y a une ouverture, une place donnée à l'autre, en fait. Et moi, j'ai tant de choses à imaginer et à partager, je ne suis pas seul à les imaginer. Je ne sais pas quels sont les bons dispositifs. Ce que je sais, c'est que tous imaginent, et aussi, par exemple, à Villejuif, lors de la restitution qu'on a faite le 14 janvier, on avait prévu un truc, mais moi, je savais que c'était une projection en plein air, je savais que potentiellement, ça ne fonctionnerait pas. Et du coup, j'avais amené plus de matériel. Et en fait, on a complètement, sur le moment même, changé le projet. Et avec les gens qui étaient là, fait finalement une installation vidéo dans la salle, etc. On n'a pas du tout fait ce qu'on avait prévu de faire à la base. Et je crois que se donner cette capacité d'agilité, notamment au niveau technique, pour pouvoir éventuellement changer avec les gens ce qu'on va faire, avoir cette capacité-là et pas le prendre sur un truc d'ego, vous voyez, c'était pas mon projet, on crée ensemble, en fait. Et du coup, même techniquement, moi, j'ai toujours plus de matériel pour qu'on puisse modifier les choses avec les gens. Et sur TikTok, moi, j'ai fait des ateliers avec des jeunes récemment, là, en Normandie, sur 5 jours, enfin 5 jours distincts les uns des autres. Et en fait, j'utilise pas le réseau TikTok. Je fais un projet classique, on va dire, de médiation, où on produit des contenus, des vidéos, des photos, on les partage, etc. Et on utilise l'outil TikTok. Eux, ils veulent absolument pas diffuser sur leur compte TikTok les vidéos qu'on va faire dans notre cadre institutionnel. Hein. Ça, ils veulent pas. Ils me disent non. Et même les étudiants de la FEMIS, s'ils voulaient pas. Hein. Mais par contre, parce que TikTok, c'est un outil de création incroyable avec des possibilités de montage. Mais c'est complètement fou. C'est le rêve de Jean-Luc Godard, en fait. Hein. TikTok, dans tout ce qu'il avait écrit sur quel serait l'outil idéal pour faire du cinéma. C'est vraiment ça, TikTok. En termes purement techniques, et donc l'application, elle contient des outils de création géniaux, et du coup, on utilise l'application pour créer, et du coup, la compétence que certains ont d'usage de cette application pour créer d'autres choses, en fait, et des choses qu'on ne diffusera pas dans TikTok. Donc voilà, mais ça, moi, je ne le savais pas au début. Au début, j'avais un jugement hyper négatif sur TikTok. J'ai même fait 2 conférences là-dessus parce que je voyais les vidéos ignobles de d'hypersexualisation des jeunes filles. J'étais là, c'est pas possible. Et puis petit à petit, j'ai compris qu'il y avait bien d'autres choses que ça et que, comme dans tout endroit, il y a des choses bien et des choses pas bien. Et encore une fois, c'est ce qu'on en fait. Mais voilà, de quelle manière moi je l'ai utilisé.
Ok, merci.
De rien.
Benoît, ça a permis aussi vous avez parlé d'évaluation à de nombreuses reprises, que ce soit dans le cadre de votre formation, quand vous partagez aussi les manières d'évaluer. Là, vous en avez parlé aussi quand on évalue les politiques publiques. C'est un sujet aussi qui revient souvent au sein de notre réseau. On se rend compte que souvent, on n'a pas forcément prévu le temps dans un projet de l'évaluation. Et or, on a vraiment besoin d'objectiver aussi ce qu'on fait pour pouvoir avancer. Alors, je ne vais pas relancer ce sujet parce qu'il existe un risque, à moins qu'on puisse mettre un mot de conclusion là-dessus, mais ce sera encore un autre temps à ouvrir que se poser ces questions-là. Voilà. J'avais envie de partager ce point, l'évaluation.
Je peux vous dire une phrase là-dessus. Je pense que,
bien sûr.
évidemment, on est beaucoup sur des évaluations quantitatives qui sont d'une bêtise confondante, hein, soyons clairs. C'est facile de rassembler du monde et de dire qu'on a eu du monde. Et c'est pareil, c'est facile de remplir des salles avec des gens qui sont obligés d'y aller et ensuite de mettre des chiffres. Mais il s'est passé quoi? On évalue quoi, en fait, là-dedans? Ben, on évalue autre chose qu'un fait culturel, me semble-t-il. Et du coup, l'évaluation, à mon avis, qui a du sens, c'est une évaluation qualitative. Mais recevoir les retours des gens, c'est bien, mais c'est à mon avis extrêmement partiel, parce que entre ce que les gens disent sur le moment et ce que ça leur a fait dans peut-être 5 ans, 10 ans, on n'en sait rien, donc je pense qu'il est extrêmement difficile d'évaluer en fait vraiment l'impact de ces actions. Par contre, il y a une chose qui à mon avis est intéressante à évaluer, c'est nos propres pratiques. C'est-à-dire, est-ce que je me suis déplacé? Est-ce que notamment la grille des droits culturels, elle est hyper intéressante? Est-ce que, et ça ne peut pas se faire tout seul parce qu'il faut être plusieurs, justement, est-ce que j'ai respecté le droit à la diversité? Est-ce que j'ai, et du coup, le droit à l'identité, etc. Et je pense que là, il y a une clé, à mon avis, de l'évaluation et que les droits culturels sont un très très bon outil d'évaluation. Et je pense, je ne dis pas qu'il faut refuser l'évaluation quantitative, mais à mon avis, l'évaluation quantitative, elle est à mettre en regard. C'est-à-dire que si, par exemple, on a eu je sais pas, 10 classes qui sont venues voir un spectacle et que quand ils sont arrivés dans le hall, ils se sont tous fait engueuler par le personnel parce qu'ils faisaient du bruit, et ben ça, c'est important de l'évaluer aussi. Et là, les droits culturels n'ont pas été respectés et clairement, il y a eu une absence de travail sur comment on accueille des gens et juste avec un truc normatif où on les engueule parce qu'ils font du bruit. Ça n'a aucun sens. Enfin, et ça, c'est hyper important d'être évalué. Donc voilà, donc pour moi, il faut croiser l'évaluation qualitative des gens, l'évaluation quantitative de la participation et l'évaluation à l'aune des droits culturels des pratiques professionnelles. Voilà mon avis rapidement sur l'évaluation.
Très intéressant, merci beaucoup. Bon, eh bien, écoutez, on va terminer cet échange qui a été très riche. Merci encore, Benoît, d'avoir pris le temps pour partager cette tâche, parce que vous avez beaucoup de nos réflexions. On fera donc un compte rendu sur le site du PMN Lab assez rapidement pour pouvoir réentendre des choses si vous souhaitez et un peu retrouver des points clés de ce qui a été échangé aujourd'hui. Avec grand plaisir pour d'autres échanges, Benoît, au sein du réseau PMN Lab ou ailleurs. Et à bientôt à tout le monde. Petit message aussi sur les questions de médiation. L'Université des Trois-Rivières, le laboratoire de sciences publiques, publie un guide des pratiques de médiation culturelle et d'évaluation de médiation culturelle numérique dans les armées. Il propose prochainement une visite présentée au travail. On a publié dans l'agenda le rendez-vous et on a dans la journée. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, suivre. Toujours, il y a beaucoup de bruit là d'un coup, et on poursuit ces échanges dans de nouvelles ressources. Merci beaucoup à tout le monde.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Benoît.
Merci, merci. 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 Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir, merci.
Au revoir. J'ai beaucoup parlé, hein, mais j'aurais... Bon, mais... Bon.
C'était très intéressant.
Je pense que c'était riche, ouais. Bon. On a besoin maintenant de débriefer. De process tout ça et...
Bon.
Et de voir comment l'appliquer dans la vraie vie. C'est replacé.
En tout cas, ce que je voulais juste dire, j'ai beaucoup parlé. Moi, ça m'intéresse vraiment aussi de... Enfin, moi, j'ai des trucs à dire, mais on a chacun des choses à dire et là, j'ai beaucoup parlé dans le sens, il n'y a pas eu énormément de... Enfin, voilà, on m'a relancé sur... Je me suis laissé relancer sur des sujets, mais l'échange, voilà, c'était quand même... Donc voilà, ça m'intéresse l'échange aussi, parce que chacun a des expériences importantes, et moi, ça m'intéresse de recevoir aussi. C'était pas trop la modalité là, mais voilà.
Peut-être avec le groupe, notamment médiation numérique. Par exemple, il y a des temps d'échange qui sont plus des temps de travail et d'échange dans le groupe. Ça peut être intéressant à ce moment-là que vous vous retrouviez, qu'on repasse un truc, mais qu'il soit dans un autre format.
Plus format atelier. À un moment, il y avait ça au TMN Lab, le format atelier un peu plus long.
On a plein de formats à imaginer, effectivement. Il y avait des temps où là, c'est du partage. Et avec plaisir pour caler ça prochainement.
Okay. Ouais, je retiens l'idée, je pense qu'on devrait savoir si on fait avec une médiation numérique, effectivement.
Ouais, moi ça m'intéresse d'écouter, par exemple l'expérience là de Choisy, elle était intéressante, enfin ça m'intéresse peut-être d'écouter plus d'expériences, parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas forcément ce qu'on fait les uns les autres, quoi.
Oui, c'est sûr. Et c'est pour ça qu'on a d'ailleurs les temps, quand le groupe médiation nous ramène des temps, là c'est des pairs qui viennent partager. Et du coup, c'est des... Donc, c'est des personnes qui sont membres du TLNA, qui viennent partager ce qu'ils font dans leur lieu. Il y a tout de suite une plus grande facilité que les autres rebondissent en partageant leur propre expérience. Forcément, alors que quand c'est quelqu'un d'extérieur qui vient, il y a plus une posture que notre communauté a parfois respecte aussi. Un petit peu plus de temps pour oser plus parler.
Ok.
Mais on fera ça.
Ok. Ok. Merci, en tout cas.
À bientôt, Benoît.
Merci. Bonne journée tout le monde. Au revoir.
Au revoir.
Bonne journée.
Au revoir.
Au revoir. Recording stopped.